Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à ce café scientifique qui, en fait, s'inscrit dans le cadre de la campagne neuchâteloise de sensibilisation aux droits de l'enfant, intitulée 10 mois, 10 droits, donc un droit par mois pendant 10 mois. Alors vous avez parmi les droits qui sont traités le droit d'être entendu, le droit au respect de la vie privée des enfants, le droit d'avoir une identité en tant que mineur, le droit de bénéficier du meilleur état de santé possible, le droit d'avoir des loisirs, le droit d'être protégé, des droits même lorsqu'on est en situation d'handicap, le droit à un environnement sain et, pour ce qui nous concerne ce soir, le droit à une justice spécifique ou différente de la justice des adultes. Et c'est le thème que nous allons traiter aujourd'hui. C'est ce qui est traité par l'article 40 de la Convention des droits de l'enfant, convention qui, soit dit en passant, a justement... La Convention n'a pas 20 ans, mais ça fait 20 ans que la Suisse a ratifié la Convention des droits de l'enfant. C'est probablement la raison pour laquelle les 10 droits ont été... Cette campagne a été créée cette année. J'aimerais peut-être commencer par une petite introduction sur... La manière d'appréhender les enfants dans notre société. Il y a deux manières, en fait, d'appréhender les enfants, un enfant, en matière de droit, principalement de droit pénal. Soit on considère qu'il s'agit d'un adulte miniature, soit on considère qu'il s'agit d'un adulte en devenir. Si on considère qu'il s'agit d'un adulte miniature, alors on aura plutôt tendance à le traiter au moins aussi bien qu'un adulte, et on va donc lui octroyer un ensemble assez important de droits, les mêmes droits qu'on octroie aux adultes, voire quelques droits supplémentaires pour les mineurs en particulier. Si par contre on considère qu'il s'agit d'un adulte en devenir, alors on aura tendance à le traiter différemment, c'est-à-dire on va créer un autre jeu de droits que celui que l'on utilise pour juger des adultes. Et ces deux positions ont donné naissance à deux idéologies, entre guillemets idéologies, deux modèles finalement de prise en charge des mineurs différents, un modèle qu'on appelle le modèle de justice et un autre modèle qu'on appelle un modèle de protection. En Suisse, nous connaissons plutôt le modèle de protection et on a fait du droit pénal des mineurs un droit pénal de l'auteur, c'est-à-dire qu'on va juger le mineur pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a fait. Le droit pénal des adultes est un droit pénal de l'acte. On juge une personne en fonction de la culpabilité par rapport à ce qu'il a fait. Le droit pénal des mineurs, on juge la personne en fonction de ce qu'elle est ou de ce qu'on aimerait qu'elle soit demain, c'est-à-dire pour essayer de faire en sorte que son développement se passe au mieux. Mais on a en même temps ce modèle de protection, mais en même temps, on octroie pas mal de droits aux mineurs aujourd'hui. Et donc, cet autre modèle de justice n'est pas très loin non plus. La question donc qu'on va se poser un peu aujourd'hui est de savoir si ce modèle qui octroie finalement des droits aux mineurs, est-ce qu'il n'a pas aussi comme corollaire le fait d'octroyer des obligations et donc de savoir si le renforcement des droits n'a pas comme corollaire finalement le durcissement du traitement des mineurs, alors que le modèle de protection aurait plutôt tendance à envisager la chose autrement que par un durcissement de la situation. Et pour nous en parler ce soir, nous avons réuni autour de la table quatre personnes que je vais prendre dans l'ordre alphabétique. D'abord, Madame Géraldine Bugnon, qui est sociologue, chercheuse dans le domaine de la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi, à la Haute École de Travail Social à Genève et au Centre Roman de Recherche en Criminologie de l'Université de Neuchâtel. Nous avons également parmi nous Madame Mireille Raymond, qui est juge des mineurs à Lausanne, juge des mineurs en activité. Nous avons M. Alain Ribaud, qui est conseiller d'État aujourd'hui dans le canton de Neuchâtel, mais qui est ancien juge des mineurs, lui aussi. Et M. Jean Zermatten, qui est ancien président du Comité des droits de l'enfant de l'ONU et ancien juge des mineurs dans le canton du Valais. Donc nous avons une table de bien fourni. Et ce que je vous propose, c'est que chacun, en 3-5 minutes, présente sa manière d'appréhender la thématique de ce soir. Et pour faire le plus simple, on va le faire dans l'ordre alphabétique. Donc, Madame Bugnon, Géraldine. Voilà.
Très bien. Est-ce que le micro marche ? Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être ici parmi vous ce soir. Donc, comme l'expliquait le professeur André Kuhn, je suis moi-même sociologue, la seule non-juriste, non-pénaliste de cette table, ce qui va probablement me donner une place un peu particulière lors de cette discussion. Les éléments peut-être que j'aimerais souligner pour ouvrir un petit peu le débat, c'est vrai que l'association entre renforcement des droits des mineurs et durcissement de la réponse pénale à la délinquance juvénile, cette association d'idées peut sembler un petit peu dérangeante, voire provocatrice. C'est des constats qui sont faits par la littérature. Ces deux tendances historiquement se renforcent dans la prise en charge des mineurs délinquants, à la fois les garanties liées à leurs droits en tant que mineurs et une certaine criminalisation ou repénalisation, on parle de repenalization en anglais, de la délinquance juvénile, avec à la fois une augmentation des durées de détention, des types de sanctions parfois plus dures, des durées maximales de détention plus dures, un âge de la majorité pénale qui tend à être rabaissé, ou en tout cas des discussions autour du rabaissement de l'âge de la majorité pénale dans de nombreux pays. Et en fait, ce lien, ce corollaire entre les deux tendances peut, à mon avis, être abordé sous l'angle de la rhétorique de la responsabilisation des mineurs délinquants. C'est une nouvelle rhétorique, peut-être des 20 dernières années, qui a un peu pris la place de la rhétorique de l'éducation, de la protection. Et derrière le mot responsabilisation, on entend voilà, un individu capable, bien sûr sujet de droit et citoyen, mais aussi en devoir de se responsabiliser face aux actes commis. Et donc c'est par là qu'on peut entrer dans cette réflexion sur le lien entre les deux tendances. Et puis peut-être, vu qu'on m'a demandé de me dire selon quelle perspective j'abordais la question, en tant que sociologue, j'ai une attention particulière pour les contextes. Et donc ces grandes tendances mondiales ou globales restent en fait des tendances, des pistes de réflexion et de recherche. Mais c'est toujours important d'aller regarder comment ces choses-là s'actualisent en fait dans des contextes donnés. Et on voit des effets très distinct. Par exemple, si je prends le cas de la France, où le droit des mineurs s'est quand même fortement durci dans les textes, des études récentes statistiques ont montré qu'en fait, les juges continuent à appliquer le droit de manière protectionniste, l'ancien droit, de manière aussi protectionniste qu'il l'était dans les textes auparavant. Donc on voit que voilà, c'est pas si simple, le droit n'est pas toujours mis en pratique de manière mécanique et qu'il faut toujours aller regarder de près ce qui se passe dans les contextes locaux pour vraiment décider si on est en train de prendre un tournant punitif dans les pratiques ou pas. Je vais peut-être pas en rajouter davantage maintenant et je passe la parole à Madame Raymond.
Merci, bonsoir à tous. Pour ma part, je suis juge des mineurs depuis 15 ans dans le canton de Vaud. Je précise dans le canton de Vaud parce qu'il peut y avoir encore, malgré les lois fédérales, quelques différences cantonales et quelques particularismes cantonaux. Ce qu'il faut dire quand on est juge des mineurs, c'est qu'on est un peu juriste et beaucoup juge des mineurs, avec tout ce que ça implique de souplesse, de travail social, de travail en réseau. En particulier grâce à la loi suisse qui reste clairement protectionnelle. Une indication à cet égard, la loi suisse a relevé le seuil d'intervention du juge pénal en 2007 qui est passé de l'âge de 7 ans à l'âge de 10 ans. Alors ça reste bas, c'est vrai, mais en tous les cas, il a été relevé. Et il n'est actuellement pas du tout question d'abaisser la majorité pénale, Dieu merci. Voilà, c'est vrai que nous n'avons pas forcément tous les jours à l'esprit la Convention sur les droits de l'enfant dans notre pratique. En revanche, nous avons quotidiennement à l'esprit l'article 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs qui indique et qui donne la ligne directrice du droit pénal des mineurs qui est que la protection et l'éducation du mineur sont prioritaires dans l'application du droit pénal des mineurs et que c'est cet aspect de la prise en charge d'un mineur délinquant qui doit guider le juge des mineurs à tout instant. Il est évident que, cependant, que même si le droit pénal des mineurs n'est pas un droit pénal de l'acte mais un droit pénal de l'auteur, l'acte entre évidemment en ligne de compte parce que nous avons aussi la mission de protéger la société de certains mineurs qui sont dangereux. Donc c'est un jeu d'équilibrisme entre ces deux aspects qu'il faut faire tous les jours. Mais heureusement, nous en avons les moyens avec des possibilités très souples de réaction rapide, avec un formalisme qui n'est pas celui du tout de la justice des majeurs et nous usons de toutes ces possibilités quotidiennement.
Oui, voilà, bonjour mesdames et messieurs. Pour moi, c'est un grand plaisir de me replonger dans la thématique de la justice des mineurs. J'ai adoré ça, je l'ai pratiqué pendant 16 ans. Et à l'époque, le pape, la référence absolue, c'était Jean Zermatten. Donc je suis vraiment très content de le revoir ce soir. Vous dire aussi peut-être, si vous êtes d'accord, de partager avec moi une pensée pour Olivier Gagnat. Olivier Gagnat, qui était très, très passionné par la justice des mineurs dans son ensemble et qui avait beaucoup réfléchi à la violence des mineurs et aux méthodes et aux moyens d'y faire face. La question du renforcement des droits de l'enfant a-t-il contribué au durcissement des traitements des mineurs ? Ben, en fait, j'en sais rien. J'en sais rien. Si aujourd'hui, on est en effet plus dur qu'on l'était il y a 10 ou 15 ans, alors oui, dans les textes, puisque ben, le maximum de la détention a passé à 4 ans, il était d'une année auparavant, donc en apparence peut-être que oui, mais après c'est évidemment la réalité qui déterminerait si on est aujourd'hui plus dur ou pas. Mais au fond, ce ne serait pas complètement étonnant, selon un principe qui s'applique, vous pourrez l'appliquer dans beaucoup de domaines de la vie, action égale réaction. Action égale réaction, c'est qu'on s'engage pour une cause parce qu'on est agacé par un comportement, ou c'est aussi que si on déplace un curseur, eh bien il y a un autre qui prend le chemin inverse. Et donc, on peut imaginer que si on étend d'un côté des droits, ben, d'un autre côté, il y a peut-être l'effet boomerang d'un durcissement. Ce ne serait pas, en tout cas, une surprise. Donc, comme je ne sais pas comment vous répondre, j'ai choisi de présenter, je pensais d'abord 3 mini-sujets, mais comme je vois que mes préopinions sont beaucoup plus courtes, ça sera 2. Puis j'en garde un si jamais il n'y a pas de questions, comme ça j'aurai une petite réserve. Premier de ces mini-sujets, qui sont des petits sujets polémiques, qui normalement devraient susciter la discussion. J'ai vécu à une époque de très grande confiance qu'on faisait aux juges des mineurs, et peut-être dans mon canton, celui de Neuchâtel, encore plus qu'ailleurs, puisqu'on avait une loi sur la procédure pénale applicable extrêmement light, il y avait du genre 4 articles, c'est en tout cas la plus légère que j'ai jamais vue. Et puis en plus, il y avait le même juge qui était à la fois juge des mineurs et juge de l'autorité tutélaire civile, ça s'appelait comme ça, protection de l'enfant aujourd'hui, qui donnait une immense souplesse, évidemment, qui n'était pas toujours vue d'un très bon œil, mélange des genres, mais qui de fait donnait une immense souplesse. Et ça procédait quand même de l'idée, cette souplesse, que le prévenu mineur, il est beaucoup plus important que le cadre légal censé le protéger. Cette souplesse considérable a par exemple permis, sans du tout trafiquer le texte de loi qui était tellement large qu'il permettait à peu près tout, en première Suisse à l'époque, d'introduire la médiation pénale, qui aujourd'hui est en vogue, et en particulier dans le canton de Fribourg, mais on était les premiers à Neuchâtel en raison de cette loi extrêmement souple pour le faire. Bien sûr, les objecteurs à cette théorie de la grande souplesse diront, mais un cadre, il protège de l'arbitraire, il protège de l'arbitraire du juge, il protège des manières différentes d'un juge d'aborder les thématiques. Mais à cela, je répondrai qu'un mauvais juge, il le restera, même s'il a un cadre excessivement précis. Au fond, plus on réglemente, plus il y a de procédures, et plus le fait, l'acte, prendra de l'importance versus son auteur. C'est en tout cas ma conviction. Puis deuxième mini-thème, il est plus court, je crois que ça devrait jouer à peu près dans les 3 à 5 minutes qu'on m'a accordé. C'est cette réflexion qui m'interpelle, puis que je n'avais pas forcément il y a quelques années, donc peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas encore. C'est que le durcissement, en général, en pénal, c'est un vrai risque. Alors c'est bien sûr un risque pour le mineur, qui a le potentiel d'être broyé par un durcissement excessif à son égard, mais c'est aussi un risque énorme pour la société. Ça sera un petit peu difficile à l'expliquer, car c'est sans doute un peu à contre-courant, parce que je me rends bien compte, comme personnalité politique, que le thème est délicat. La société a tendance à réclamer des châtiments importants, et surtout dans l'émotion d'un fait grave. Hein, si vous posez la question, est-ce qu'il faut réprimer juste après quelque chose de difficilement acceptable qui se serait déroulé, d'ordre sexuel ou autre, il y a évidemment une réaction de la société, de la population qui est très vive à cet égard. Et donc, mon propos est assez difficile à expliquer. Mais en réalité, je suis convaincu que c'est nocif de répondre ainsi à cette pression. Plus une société est dure, plus le condamné le devient. Et cela d'autant plus, évidemment, qu'il est mineur et donc plus malléable. L'affirmation pour moi, c'est qu'il n'y a pas de grand banditisme en Suisse, notamment, ce n'est pas la seule raison, en relation avec des peines relativement clémentes qui sont appliquées. Si vous regardez en France, on a donné l'exemple tout à l'heure, la répression y est féroce. Eh bien, au fond, on endurcit les délinquants, on les met notamment plus longtemps en prison. Et puis, ben, vous savez que la prison, c'est l'école du crime. Et en réalité, à durcir et répondre donc à une attente de la population en disant « on va les avoir, on va réprimer très durement », bien au final, globalement, on crée le grand banditisme, on crée un danger pour la société en retour de ce qu'on pensait faire pour la protéger. Voilà un petit credo que je tenais à partager avec vous et je garde le troisième thème en réserve.
Merci beaucoup. Quand on porte un nom qui commence par Z, on a en général la parole en dernier, donc on doit essayer de dire autre chose que ce qu'ont dit les précédents. Je précise que je suis un peu déconnecté du terrain puisque j'ai quitté le tribunal il y a déjà une douzaine d'années, mais que je suis quand même resté actif, mais plutôt dans le domaine des droits de l'enfant, et là on fait le lien entre droits de l'enfant et la justice juvénile, et ce fameux droit de l'enfant de disposer d'une justice particulière, spécifique, spécialisée, et qui dispose aussi d'outils particuliers, donc on dirait d'une pénologie particulière, quoique le terme pénologie n'est peut-être pas très bien utilisé si on sait qu'on utilise plutôt des moyens qui sont peut-être différents que les sanctions pures et dures. Donc on est, du point de vue international, mais également du point de vue national, entré avec la Convention des droits de l'enfant, mais on avait déjà quand même des prémices avant, dans un domaine où on a légiféré, pas seulement par la Convention, mais après la Convention, par d'innombrables textes qui cherchent à encadrer l'activité du juge juvénile, appelons-le comme ça, parce que le juge juvénile n'est pas toujours un juge spécialisé. C'est souvent un juge qui s'occupe d'enfants, mais qui n'est pas spécialisé et qui n'a pas un droit spécialisé. Donc, dès lors qu'un enfant commet un délit et qu'il passe dans les mains ou dans la machine à broyer d'un juge qui n'est pas spécialisé et qui applique un système de sanctions qui n'est pas adapté, on est dans des situations dramatiques où on envoie systématiquement les enfants en privation de liberté. Ça, c'est le grand mouvement international qui a amené tous ces textes et qui, effectivement, a aussi eu une influence en Suisse. Dès le moment où on a ratifié la Convention, on a des obligations au titre de cette Convention et on a également cherché à encadrer. Donc, comme on était dans un mouvement de législation nouvelle, la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, on a ensuite fait le pas vers la procédure avec ce leitmotiv que je répète souvent, on ne peut pas traiter un enfant plus mal qu'un adulte. Ça veut dire que si on donne des droits procéduraux à un adulte, on doit les donner à un enfant, dès le moment où il entre en conflit avec la loi, au moins de manière égale à un adulte, voire lui donner des droits supplémentaires, puisqu'il est une personne vulnérable qui a de la peine à se défendre et qui est en évolution. D'où la loi, sœur de la loi fédérale régissant la condition, qui est la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, qui a révolutionné passablement, je ne dirais pas les pratiques de décision, mais les pratiques procédurales. Je viens aussi d'un canton où on avait une procédure light. Alain a dit que c'était peut-être la plus light de Suisse. En Valais, quand on a créé le tribunal des mineurs en 1980, on a établi un article dans la loi d'organisation judiciaire du canton disant « il est créé un tribunal des mineurs, point ». Donc, voilà. Donc, ça voulait dire qu'on faisait une confiance totale au juge des mineurs, un peu d'une manière d'un bon père de famille qui allait s'occuper de ceux qui faisaient un peu des bêtises, mais qui allait certainement le faire le mieux possible. avec évidemment tous les risques d'arbitraire. Donc, on a créé cette loi, on a changé les procédures. Maintenant, si on regarde, je vais rapidement parce que ce développement historique nécessiterait beaucoup d'explications, mais si on regarde maintenant les sanctions qui sont prononcées, je parle de la Suisse, on voit qu'on n'a pas du tout un durcissement des décisions. Si on regarde le nombre de privations de liberté qui ont été infligées en 2015, je ne sais pas les chiffres, 2006, c'est vraiment c'est 2,5% de toutes les décisions. Si on regarde les institutions qu'on a créées pour mettre, quand on a durci la loi de 1 an à 4 ans, on s'aperçoit que l'institution de l'Echer était surdimensionnée. Je plaide un peu coupable parce que j'ai participé aussi à cette nouvelle organisation. Et puis on s'aperçoit que des institutions fermées qui existaient, qui étaient fermées, ferment. Donc ça veut dire que on n'est pas dans un durcissement statistiquement. Et je ne crois pas que les juges des mineurs, même si leur activité judiciaire est beaucoup plus encadrée et s'ils respectent beaucoup mieux les droits des enfants qu'avant où on les respectait probablement, mais de manière spontanée, je pense qu'on n'est pas du tout dans une situation de durcissement. Clairement, cependant, je suis totalement de l'avis que donner plus de droits amène à la possibilité que plus de droits égale plus d'obligations, égale plus de responsabilités, égale plus de punitions. Il y a un danger, on ne peut pas le nier, et il faut s'en occuper. Il faut regarder effectivement ce qui se passe à l'intérieur des tribunaux, et il faut voir quels instruments ont été mis en place. Et là, c'est quand même très intéressant de voir que dans le développement des modèles, on a le modèle de la justice réparatrice, restauratrice, qui est une réponse non punitive, enfin non punitive, de prise de conscience, de réparation et de restauration, et qui n'est pas un durcissement des positions.
Merci beaucoup. Je crois que Madame Raymond voudrait réagir.
Ah oui, merci. Alors peut-être juste pour dire qu'en regardant les chiffres du canton de Vaud, j'ai observé, mais il faut le faire avec la plus grande prudence, peut-être une augmentation du nombre de jours de privation de liberté, une augmentation du nombre de jours de prestations personnelles sous forme de travail. Mais quand je dis avec la plus grande prudence, c'est qu'il faut dire aussi qu'il y a le dualisme qui a été introduit en 2007. Pour donner une brève explication pour les personnes qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, avant 2007, si le mineur avait besoin de soins éducatifs, on ne pouvait prononcer qu'une mesure à l'exclusion de toute peine. Depuis 2007, on peut prononcer une mesure si le mineur a besoin de soins éducatifs, mais en même temps une peine. Donc évidemment, quand on regarde les statistiques de ces dernières années, il y a plus de peines qui sont prononcées, alors même qu'il y a peut-être des mesures en même temps. Et que les peines ne seront pas toujours exécutées, parce que si une mesure de placement, par exemple, fonctionne, elle sera déduite de la peine, ou la peine, on peut complètement renoncer à la faire exécuter. Alors ça, c'est une chose. Une autre chose qu'on observe dans le canton de Vaud, mais je tiens à dire que c'est le canton de Vaud, parce que ce n'est pas partout la même chose, c'est le rôle du ministère public. À partir des années 2000-2005, quand il y a eu des époques où on assistait à pas mal de violences dites gratuites dans les rues, le ministère public dans le canton de Vaud a commencé à intervenir beaucoup plus systématiquement dans les affaires de mineurs, c'est-à-dire à venir aux audiences et à soutenir l'accusation. Ça n'a pas augmenté. Ces affaires de violences ayant plutôt diminué, l'intervention du ministère public a également diminué. Et puis, je ne suis pas sûre non plus que ce soit forcément un signe de durcissement, parce que dans l'intervalle est entrée en vigueur la nouvelle procédure qui a fait qu'il y a des procureurs spécialisés chez les mineurs, pour les mineurs, et qui par conséquent comprennent beaucoup mieux la situation qu'avant. Donc avant, quand le procureur intervenait, il fallait presque traduire les propos du procureur aux mineurs. Maintenant, ils sont spécialisés et ils ont une autre manière d'intervenir. Voilà, donc il y a toujours des éléments qui vont dans le sens d'un durcissement, mais est-ce que c'est parce qu'on a accordé des droits aux mineurs ? C'est pas certain. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a la procédure, il y a des vagues aussi de délinquance parmi la jeunesse, des toutes sortes de facteurs qui entrent en ligne de compte, et c'est très difficile de corréler des aspects de plus grande sévérité au fait d'avoir octroyé des droits aux enfants et aux adolescents.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, pardon.
C'était pour aller un petit peu dans le sens de, justement, de l'application concrète du droit. Une des réflexions que je me faisais avant de venir ici, c'était qu'en fait, on peut aussi voir des logiques de concurrence entre les différents droits. Par exemple, le droit du mineur à être détenu proche de sa famille et le droit du mineur à bénéficier de conditions de détention propices à sa scolarisation ou à sa professionnalisation. Et j'ai cru comprendre, je travaille sur une recherche sur la justice des mineurs en Suisse romande, que ce genre de dilemme se pose aux juges, par exemple Genevois, qui hésiterait à envoyer un mineur dans la nouvelle prison des Léchères à Palaisieux, et ce qui éloignerait le mineur de sa famille, ou à le placer à la Clairière, qui en fait n'est pas pensée actuellement comme un centre d'exécution de peine, de détention, mais comme un centre d'exécution de mesures d'observation avant jugement ou de détention provisoire. Et donc on voit en fait que c'est pas si simple de penser le respect des droits des mineurs, puisqu'il peut y avoir de la concurrence et de la tension entre différents droits. Et du coup, la marge de manœuvre des juges, justement, permet aux juges de privilégier tel ou tel droit au détriment d'un autre. Et dans le même sens, ça c'est quelque chose que j'ai davantage observé sur un terrain de recherche brésilien, sachant que le Brésil, ça peut sembler très lointain, très exotique, mais c'est un des premiers pays à avoir mis toute sa législation en matière de justice des mineurs aux normes, enfin conforme à la convention en Amérique latine, donc à la convention des droits de l'enfant. Mais au Brésil, ce qu'on observe, c'est que les garanties procédurales juridiques qui ralentissent forcément la procédure pénale et donc la décision judiciaire pose un frein à l'action immédiate des juges qui, donc, dans la perspective de pouvoir éduquer un mineur, aimerait pouvoir rapidement donner une réponse à l'acte qui a été commis. Et donc on observe toutes sortes de détournements en fait de la loi. Je ne suis pas en train de parler de transgression de la loi par les juges, mais simplement de réappropriation, de détournement au profit de mesures qu'on appelle présententielles, donc décidées avant jugement et donc avant l'établissement de la culpabilité du mineur délinquant. Et le droit brésilien permet plus ou moins ce genre de pratique, mais on peut se poser la question de, alors finalement, on a renforcé les garanties procédurales, et du coup, toute une série de jeunes vont recevoir des mesures, alors ce n'est pas de la détention, parce que ça, le droit ne le permet pas, mais des mesures de suivi éducatif qui peuvent être relativement contraignantes avant même d'avoir été jugés. Et donc, voilà, on peut se demander s'il n'y a pas des effets de domino, en fait, dans ce genre de situation.
Bon, c'est possible aussi dans le droit suisse. Hein. Le placement provisoire est un placement qui a lieu avant jugement. Il a été encadré mieux par la nouvelle loi et par la nouvelle loi, l'article 15, sauf erreur, et par la procédure, mais c'est permis. Bon, la compétition entre les droits, j'y crois pas, moi. Je crois que le droit pénal des mineurs est basé sur un principe qui est le principe de l'individualisation. Le principe de l'individualisation, c'est rien d'autre que la concrétisation en justice juvénile du principe, enfin, pas du principe, parce que ce n'est pas un principe, c'est un droit, du droit de l'enfant à voir sa situation être examinée dans le sens de son intérêt supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'obligation pour chaque décideur, ici le juge, d'établir la situation personnelle du mineur et d'établir les solutions possibles pour lui, et de choisir celle qui va favoriser son développement. Ici, ça veut dire sa réinsertion, éviter la récidive, etc. Donc, il va y avoir des situations où on va se poser la question, est-ce qu'il est mieux de l'éloigner de son milieu et de le placer dans une institution dans la montagne où il ne risque pas de récidiver, ou est-ce qu'il est mieux de le laisser proche de son domicile où il va pouvoir continuer à aller à l'école, mais peut-être avec... Donc, c'est chaque fois cette pesée des intérêts, et évidemment qu'il y a des intérêts convergents, mais je ne crois pas que c'est des droits qui... Il y a juste un droit à voir son intérêt supérieur être pris en compte. C'est ça.
Peut-être juste encore sur la question du durcissement ou pas de la justice des mineurs en général, de ce que subissent les délinquants mineurs prévenus. On ne peut pas faire abstraction dans l'appréciation des statistiques d'aujourd'hui sans voir qu'il y a une chute spectaculaire de la délinquance juvénile, du nombre de délits commis, ce que savent sans doute tous ceux aujourd'hui qui étudient dans la salle le droit pénal ou le droit pénal des mineurs, mais peut-être pas tout le monde. Depuis 10 ans, c'est à peu près la moitié moins de délits commis par des jeunes. C'est donc une chute totalement spectaculaire. Et donc, évidemment, que ça influence aussi la part qui reste. Est-ce que ça veut dire que c'est les pires ou pas? Enfin, on ne peut pas faire abstraction de cette chute incroyable. Et d'ailleurs, Jean Zermatten, alors je commence à comprendre au fond qui a fait que les léchères étaient trop grandes, mais on a précisément eu le problème de l'établissement qui a été établi, où, alors que c'était, sauf erreur, d'abord 72 places qui étaient prévues, on n'en a construites que 36, c'est pas ça? 56, on n'en a finalement mis que 36. Les 36, on a vite réduit de 18 qu'on a laissé fermer pour en laisser que 18 ouvertes. Et au début, il n'y en avait même pas la moitié des 18 qui étaient remplies. Ce qui, en soi, pourrait paraître anecdotique. Il y a juste un petit problème, puisque je suis politicien, ben, c'est ma lumière. C'est que le corollaire, c'est que ça a coûté la peau des fesses que d'absorber cette période de sous-occupation avec des journées à entre 2 et 3 000 francs par mineur. Et on voit bien que ça fait vite des montants quand même assez importants. Je pense qu'on doit le dire, non ? On ne doit pas dire. C'est des choses qui doivent se dire. C'est pire que de les découvrir comme ça alors que personne ne le dirait, non ? C'est des chiffres impressionnants qu'on doit mettre en balance avec les besoins qu'on a dans tellement de domaines, et ça c'est en tout cas le rôle de la politique, que d'essayer de mettre les moyens là où c'est le plus nécessaire. Et franchement, à 2 ou 3 000 francs par nuit, ça fait un peu trop, quoi.
Alors j'ai envie de réagir tout de suite. Je suis tout à fait d'accord qu'on doit limiter ses coûts, et puis bah, c'est vrai qu'il y a eu une période de jeunesse des léchères où il y a eu ce problème de vide, mais qui était dû aussi au fait que l'habitude n'a pas tout de suite été prise de respecter le concordat et de placer, de la part de certains juges extérieurs, dans cet établissement vaudois. Ce que je voulais dire quand même, c'est que de toute façon, la prise en charge des mineurs, si on veut la faire d'une manière éducative, coûte cher. C'est certain. Mais pour moi, c'est un pari sur l'avenir et c'est la seule manière de prévenir la survenance de délinquants majeurs. Le fait d'investir dans cette éducation, de mettre le prix dans des foyers, dans des systèmes où le mineur est pris en charge par des traitements ambulatoires, par des placements qui sont des bons placements, eh bien, c'est de cette manière-là qu'on va faire des jeunes qui pourront devenir des adultes responsables et qui ne viendront pas grossir les rangs des délinquants majeurs. Donc, c'est vrai que de toute façon, je pense que ça a un coût, mais que ce coût vaut la peine. Ça, c'était le coup de gueule du juge des mineurs à l'égard du politicien.
On n'attendait pas moins de temps.
Non, je pense que c'est intéressant de voir cette question des statistiques, parce que quand les projections ont été faites sur les établissements dont les juges, les mineurs et les instances d'exécution avaient besoin, c'est dans les années 2002, 2003, 2004. Et le pic des statistiques a été la période 2005 à plus ou moins 2010. Si on regarde les chiffres les plus hauts, et depuis 2010, on a une baisse systématique. Et donc, c'est des chiffres qui avaient été appréciés par les cantons et non pas par des experts extérieurs. Mais c'est vrai qu'on était à une période où, chaque année, les statistiques croissaient, les infractions croissaient également en termes de dangerosité. C'était beaucoup de violence et beaucoup d'attaques contre la personne et pas comme contre les biens comme actuellement, avec une surreprésentation évidemment de personnes qui qui en fait n'était pas du tout intégré et qui était qui manifestait surtout par la violence. Maintenant, on a des statistiques qui sont en baisse, mais il faudrait, pour avoir une image véritablement de ce qui se passe, voir le nombre de jeunes qui ont des problèmes et qui se manifestent de manière différente que par la délinquance. Parce qu'à mon avis, on a un glissement très net de comportements délinquants vers des comportements auto-agressifs, auto-destructeurs. Je ne sais pas si vous avez entendu les chiffres de Pro Juventute sur le nombre d'appels quotidiens à leur centrale, les tentatives de suicide qui, heureusement, n'aboutissent pas toutes, mais un certain nombre quand même de suicides aboutissent, et le nombre de fois où ils déclenchent l'alerte rouge par semaine. Donc on a peut-être moins d'enfants délinquants, mais si vous regardez les listes d'attente chez les psys, psychologue et psychiatre, vous verrez que vous avez des listes d'attente énormes. Donc l'image, peut-être moins de délinquants, moins de manifestations violentes, mais je ne suis pas sûr qu'on a trouvé véritablement qu'on aurait un peu moins de problèmes. Ceci dit, du point de vue des statistiques, il y a une nouvelle qui est véritablement nouvelle, c'est que le nombre des jeunes filles dans les statistiques a cru de manière 25%, alors qu'on a été pendant de très nombreuses années à 12, 13, 14%. En comparaison internationale, c'était très stable. Vous avez peut-être vu que le tribunal des mineurs du canton de Zurich a publié, avec une étude qui a été faite là-dessus, 25% des jeunes filles sont dans les statistiques comme délinquantes. Ça, c'est une nouveauté.
C'est la marche vers l'égalité.
C'est probablement... Alors, il y a toutes sortes d'explications, dont le fait que les filles sortent beaucoup plus qu'avant, qu'elles sont moins contrôlées, moins de contrôle social, et qu'elles sont... Avant, elles étaient surtout actives dans les questions de toxicomanie ou d'utilisation de substances. Maintenant, on les trouve aussi beaucoup plus. Et si on passe de 15 à 25, ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Je ne sais pas si Mme Bugnon, parce que c'est plutôt quelque chose pour elle, ça.
Si vous avez une explication.
Non, pas d'être délinquante.
Non, je ne pense pas pouvoir réagir précisément sur la question d'une augmentation de la... Des actes délinquants commis par des jeunes filles. Il y a plusieurs collègues qui travaillent sur la question, notamment une jeune collègue qui commence une thèse sur la question en Suisse. Donc il y aura peut-être des réponses d'ici à quelques années. Il ne faut pas s'attendre à des réponses trop vite. Hein. Les thèses, ça prend facilement entre 5 et 6 ans. C'est des questions qui sont pertinentes. On serait tenté de répondre rapidement par la question de l'émancipation féminine et de l'égalité des sexes croissante, quoique. Mais à voir, en tout cas, c'est vrai que sur les terrains de recherche brésiliens que j'ai menés, donc quand je me suis présentée, je n'ai pas précisé ça, mais c'est vrai que j'ai une très bonne connaissance de la justice des mineurs brésiliennes, une connaissance, on va dire, moyenne de la justice des mineurs françaises et une connaissance qui est en train de se construire de la justice des mineurs suisses. Donc ça explique aussi un petit peu mes références. Mais au Brésil, on voyait notamment l'accès des jeunes filles à des statuts au sein de l'organisation du trafic de drogue, à des statuts de plus en plus élevés en fait, dans la hiérarchie du trafic de drogue organisé. Et ça posait effectivement des questions des jeunes filles qui, à 16, 17 ans, avaient plusieurs garçons sous leurs ordres. Elles tenaient la comptabilité du trafic et les jeunes garçons allaient vendre dans les rues. Donc voilà, ça pose des questions de comment ces jeunes filles, est-ce qu'elles se professionnalisent davantage dans la délinquance, est-ce que voilà, je ne sais pas du tout quelle est la situation en Suisse. Et c'est vrai que pour rebondir un peu sur les propos de Monsieur Zermatten, il y a une grosse question ou un gros angle mort autour de la question des troubles psychiques, à mon avis, des jeunes, de la population dite délinquante, juvénile en Suisse. Et en tant que sociologue, j'aurais une certaine méfiance ou suspicion d'emblée de poser cette étiquette sur... on entend 85%, 75% dans les propos des acteurs du terrain de nos jeunes ont des troubles psychiques, doivent être médicalisés.
j'aurais tendance à me demander si ce n'est pas aussi l'entrée du corps médical dans les institutions qui favorise ce genre de cadrage et le recours aux médicaments systématiques, si ce n'est pas aussi les conditions de détention qui font que ces jeunes ne peuvent pas dormir la nuit. Enfin, ça, c'est des choses qui sont montrées chez les... Pas les conditions en termes de mauvaises conditions, mais le simple fait d'être incarcéré qui fait que ça peut provoquer de l'insomnie, c'est déjà montré chez les adultes. Donc voilà, c'est un peu une question qui mériterait d'être approfondie, de dire ben, où se situe la frontière entre troubles psychiques, actes délinquants ou comportements délinquants. Et puis peut-être la dernière chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est d'inviter aussi à... Enfin, je partage totalement l'avis de M. Zermattan que la durée de la détention, des peines de détention, est un bon indicateur du caractère répressif ou punitif d'un système, mais je pense que ce n'est pas le seul. Et il y a notamment toute la détention avant jugement qui souvent n'apparaît pas dans certaines statistiques nationales et qui en fait peut concerner des périodes qui sont parfois longues et extrêmement difficiles à vivre pour les jeunes. En ce moment, j'enquête auprès de jeunes qui me racontent leur trajectoire dans la justice pénale et même une semaine ou deux semaines en détention avant jugement peuvent marquer en fait la vie d'un adolescent pour très longtemps. Et après, au-delà de ça, les mesures dites de milieu ouvert ou les mesures éducatives peuvent aussi être ressenties comme une contrainte extrêmement forte en fait, dans la vie d'un adolescent, même si du point de vue pénal ou juridique, on est dans de l'éducatif. Quand cet éducatif s'étend sur des mois, et que le jeune perd un peu de vue le sens de cette intervention, ça peut aussi être ressenti comme de la contrainte. Alors, on n'est plus dans de l'ultra-répressif ou punitif de la détention, mais on peut se demander s'il n'y a pas d'autres critères qui permettent d'apprécier cette punitivité du système. Quoi.
Alors là, je vais faire le juge, mais... On a envie quand même que ce soit dissuasif et puis que peut-être ils dorment pas très bien les premières nuits. Enfin, les juges présents me diront si je me trompe, mais c'est vrai qu'il faut quand même que ce soit contraignant parce que vous dites qu'ils n'ont pas pu dormir, etc. Mais nous, on aimerait bien quand même de temps en temps qu'ils réfléchissent. Et puis de temps en temps, c'est plus l'absence de leur téléphone portable qui les préoccupe que réellement la privation de liberté pour quelques jours. Donc, parce qu'on a quand même des jeunes qui sont dans une dynamique de violence, dans une dynamique de non-respect d'autrui, des affaires d'autrui, et où il faut, et qui sont dans une toute-puissance aussi. Alors ça, on revient à l'éducatif, parce que cette toute-puissance vient souvent de ce qu'ils ont vécu. Mais il y a un moment où il faut mettre un stop. Alors, moi, j'adhère absolument au fait que ce stop doit être court et significatif pour le mineur, et puis qu'il est hors de question de placer longtemps un mineur en détention, parce que je ne sais pas, certainement que certains, ça les traumatise, d'autres, ils font leur nid dans la prison, hein, parce qu'ils ne quittent pas, comme les adultes, tout un monde, tout un milieu professionnel, et ça entamerait toute leur position. Souvent, quand même, ils recréent leur nid, surtout ceux qui n'en ont pas à l'extérieur, ils recréent un peu leur nid à l'intérieur de l'institution, même de la prison parfois. Donc c'est quand même toujours un équilibre à trouver entre le stop très clair qu'il faut marquer, parce que c'est nécessaire, et puis parce qu'il faut aussi quand même un petit peu les interrompre, et puis après rejoindre quelque chose de plus éducatif. Donc voilà, par rapport à la préventive, je ne peux pas parler pour tous les cantons, mais quand même en règle générale, nos préventives sont courtes, en règle générale, donc de quelques jours à quelques semaines, mais même quelques semaines, ce n'est pas très courant. Et parfois quelques mois, parce que vraiment c'est nécessaire.
Voilà, mesdames et messieurs, les cafés scientifiques ne sont pas des exposés magistraux de la part des intervenants. Ils ne sont pas non plus une discussion autour de la table seulement par les intervenants, mais ils représentent aussi une possibilité pour vous de vous exprimer, de poser des questions. Donc, je vous donne volontiers la parole.
Mais moi, j'aurais peut-être une question. Dans les délits qui sont commis... quels sont les délits qui sont les plus courants chez les jeunes? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qu'on peut dresser comme ça de manière un peu générale? C'est de la détérioration de biens publics, c'est des crimes de violence. Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors on tourne principalement autour de certains délits. La grande criminalité économique, on n'a pas. mais effectivement, les dommages à la propriété, qui comprennent les tags, les arrachages de rétroviseurs et tout ce qu'on peut mettre dans tout ce qui est dommage. Le vol, qui va du vol de téléphone portable dans le vestiaire de la gym à des cambriolages, parfois, pour certains. Le vol avec violence, alors ça, c'est une chose qui par période, en tout cas, nous occupe beaucoup. Tout ce qui est violence, qui peut aller de la bagarre dans la cour d'école à des agressions alors extrêmement violentes dans la rue, souvent de jeunes contre des jeunes. Et puis, ben évidemment, l'aspect des stupéfiants aussi, la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, bon, qui ne touche pas la société. Le mineur se nuit à lui-même. Et puis là, on fait plutôt de la prévention que de la protection de la société. Mais enfin, voilà, oui, effectivement, le vol, les vols d'usage de voitures aussi, vol d'usage de scooters, vol d'usage de vélos, alors ça, c'est légion. Le vol avec violence, l'agression, c'est les principales.
Peut-être juste pour laisser encore le temps à la personne suivante de préparer sa question, réagir aux propos de ma voisine tout à l'heure. Moi, je ne suis pas un obsédé des coûts, hein, qu'on soit bien clair. je suis d'accord de mettre des moyens, mais je rends attentif, toujours selon le principe que j'ai exposé tout à l'heure, action égale réaction, que quand il y a des chose excessive qui se passe, la population ne l'accepte pas. Rappelez-vous l'affaire Carlos, où on s'apercevait qu'il y avait des coûts assez importants pour l'encadrement d'un jeune, eh bien, il y avait des réactions d'une extrême violence. Et le risque, action égale réaction, c'est que la société exige qu'on supprime des moyens plutôt qu'autre chose. Et c'est dans ce sens-là que je m'inquiète des coûts qui augmentent, pas forcément en me disant qu'il ne faut pas mettre de l'argent pour prévenir des récidives et pour ne pas mettre les gens sur le bon chemin. Merci de m'avoir laissé encore le temps de donner cette précision. Ah, puis j'observe, alors dans la salle, c'est très frappant. Parce qu'on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus de filles, mais en fait, il reste infiniment plus de garçons. C'est tout à fait l'inverse de la composition de la salle ce soir.
Pardon. Autre question dans la salle ?
Sur cette question de la chute drastique de la criminalité juvénile, qu'est-ce qu'on a comme éclairage, comme explication ? Est-ce que c'est lié à est-ce que c'est global ? Est-ce que c'est lié à des régions ? Est-ce que c'est que suisse ? Est-ce que c'est européen ? Et ne serait-ce qu'au niveau suisse, quelle explication on apporte à ça ?
Comme ça, je commence, comme ça, vous pourrez corriger largement ce que je vais dire. Dans ma théorie, il n'y a pas beaucoup d'études à ma connaissance sur ce sujet, qui est quand même assez stupéfiant, c'est vrai, et complètement contraire à la perception qu'on a aujourd'hui. Les gens sont convaincus que la délinquance juvénile est beaucoup plus grande qu'elle l'a été, et c'est tout à fait l'inverse. Pour moi, une des raisons majeures, c'est les petits appareils. Et les petits appareils, parce qu'on y passe énormément de temps, parce qu'on a le lien qui est créé avec les gens, et parce que la délinquance, mais je me risque dans un domaine qui n'est pas le mien, la délinquance est quand même une manière de se mettre en évidence dans un cercle. Et c'est pour ça que c'est plus masculin que féminin, probablement. C'est la virilité qui fait qu'on fait un cambriolage risqué, etc. Or, aujourd'hui, on est peut-être davantage sur son portable qu'en groupe. Et moi, j'ai jugé beaucoup de groupes à l'époque. Où on voyait bien cet effet d'entraînement qui se déroulait. Et je pense qu'aujourd'hui, les petits appareils rendent ces bandes un peu moins grandes. C'est sûrement pas la vérité absolue, c'est peut-être un des critères, et je me réjouis d'entendre les autres.
Je dirais juste une chose. Je pense que, en tout cas, dans le domaine de la violence, notamment de la violence scolaire, il y a eu des efforts de prévention qui ont été faits au niveau national énormes. Et je pense que ça, c'est une explication. Alors, c'est toujours difficile de mesurer les effets de la prévention. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on coupe toujours dans les budgets de la prévention, parce qu'on ne voit pas les effets tout de suite, on les voit à plus long terme. Mais là, je pense qu'on a investi dans la prévention et il y a eu beaucoup de campagnes qui ont été faites en Suisse dans les années 2007, 2008, 2012, au niveau national. Et pour répondre à votre question, la chute, elle est au niveau national. Il n'y a pas de chute cantonale. Il y a peut-être peut-être un petit peu plus dans un canton que dans l'autre, mais disons, ça, c'est des chiffres nationaux avec des campagnes nationales. Après, il y a certainement aussi le fait que les petits appareils font qu'un certain nombre d'enfants qui étaient toujours dehors sont plus dehors, sont malheureusement dans leur chambre et sont sur leurs petits appareils au lieu de casser les vitres ou de crever les pneus.
J'ai pas d'hypothèse ou même de fait scientifique à amener pour expliquer cette diminution, mais peut-être dans le sens de ce que vous disiez, M. Zermatten, si on investit dans de la prévention au niveau scolaire, on peut aussi imaginer que cette prévention va être menée par des acteurs plutôt du social et peut-être moins du coup, enfin, et du coup va nécessiter moins d'intervention des acteurs de la chaîne pénale, notamment la police. Et du coup, ça amène aussi à une réflexion sur finalement qui sont les mineurs qui entrent dans les statistiques de la délinquance juvénile. Les statistiques, c'est aussi une construction sociale. Si la police fait beaucoup de contrôles dans un quartier, elle va probablement déceler beaucoup d'infractions. Si elle en fait moins, il y aura moins d'infractions. Et du coup, c'est pas pour totalement relativiser cette diminution. D'ailleurs, moi, je m'en réjouis aussi. Donc, c'est pas pour lui enlever du crédit. Mais c'est pour dire que peut-être aussi, c'est d'autres acteurs qui ont, ce serait des pistes à poursuivre, hein, qui prennent en charge les conflits qui concernent des jeunes, des mineurs, du moment que ces conflits sont peut-être de faible gravité. Alors que dans d'autres situations, parfois, comme vous disiez, c'est une menace à un professeur ou à un père qui peut mener au tribunal. Donc, en fait, des faits peuvent autant tomber du côté de la prise en charge sociale que de la prise en charge pénale. Et ça pourrait peut-être expliquer. Après, la thèse des jeux vidéo et des écrans, je l'entends un peu partout autour de moi. Ce serait très difficile à confirmer scientifiquement parce que c'est deux phénomènes très, a priori dissociés. Mais en tout cas, ce serait à poursuivre dans des études futures.
Moi, je dirais juste que la piste des téléphones portables et des ordinateurs n'est pas la seule, je pense, parce que ça a aussi suscité de nouveaux délits, hein, il faut dire, quand même. Notamment, plus de cas de pornographie, plus de cas de menaces, d'injures, parce que par l'intermédiaire de ces outils, évidemment, on se lâche beaucoup plus que quand on est en direct. Tu as l'air d'être d'accord avec moi, Nathalie, hein, je pense que... Donc voilà, ça a suscité de nouveaux délits, mais c'est vrai qu'une des hypothèses qui est souvent avancée, c'est le fait qu'ils soient plus chez eux, sur leur portable, etc. Bon, vous avez omis la piste de l'efficacité des juges des mineurs, tant pis. En effet, je pense que ça n'en est pas une, parce que les mineurs se renouvellent, et c'est pas ça. Mais moi, je pense que le dépistage précoce au sein des écoles de difficultés éducatives, de difficultés d'apprentissage, par exemple, est un des facteurs importants. J'en veux pour preuve la charge énorme des services de protection des mineurs, des services de protection de la jeunesse, qui montre bien que les jeunes en difficulté ne sont pas moins nombreux. Simplement, peut-être qu'ils sont pris en charge plus tôt, et pour certains, ça va les empêcher de manifester leur mal-être plus tard par des délits. Donc voilà, ça c'est une des hypothèses éventuelles, c'est que ces enfants en difficulté sont dépistés plus précocement avant la commission de délit et que par conséquent, ils sont pris en charge par des instances de protection avant les tribunaux de mineurs. Ça, c'est une des possibilités. Il y a aussi, enfin, je pense que de toute façon, c'est multifactoriel, il n'y a pas une explication. Je pense qu'il y a aussi des populations actuellement mieux intégrées. Alors, je ne sais pas ce qui nous attendra. J'espère qu'on pourra faire de l'intégration précoce et à l'égard de d'autres populations migrantes. Mais c'est vrai que dans les années 2000, on a eu pas mal de jeunes ressortissants d'ex-Yougoslavie qui avaient de grandes difficultés d'intégration. Leurs parents étaient venus pour travailler dur, avaient reçu une éducation de leur pays, et ils étaient un peu mal pris entre le pays d'où ils venaient, le pays où ils arrivaient, où ils avaient peu la possibilité de s'intégrer parce qu'ils travaillaient beaucoup. Et là, on a eu à cette période beaucoup de jeunes ressortissants de ces pays-là et qui étaient souvent des auteurs de violences. C'est vrai que ça, c'est complètement fini.
Voilà. Alors, est-ce que il nous attendra d'autres problèmes avec d'autres populations ? Est-ce qu'on en a tiré des enseignements aussi sur l'intégration précoce ? Parce que ça me paraît vraiment être la clé de l'évitement des délits. Je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs. Et puis, effectivement, peut-être aussi que l'école a redressé la barre en matière de règles, de discipline. Ça, c'est l'impression qu'on a un petit peu aussi, mais c'est une hypothèse.
Oui, merci, Nathalie Cochérin. Je suis juge des mineurs en activité à Neuchâtel. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, juste pour cette histoire de ces statistiques sur la délinquance, j'aimerais. Alors, je ne veux pas tempérer l'optimisme ambiant, mais j'ai souvenir, j'étais dans ma voiture et j'entendais le regretté Olivier Gagnat, qui intervenait très souvent dans les médias et qui disait que la criminalité était quelque chose de cyclique et que lui, il était assez convaincu qu'on était arrivé à un cycle inverse maintenant. On est arrivé en bas et que. Dès lors, elle ne pouvait que remonter. Alors, il parlait de la criminalité des adultes, mais la criminalité des mineurs, elle est peut-être un peu plus particulière, mais je rends juste attentif à cet aspect-là du problème qui fait que la criminalité, en tout cas d'après lui, ne pouvait que remonter, qu'on était arrivé à un pic inférieur dans la baisse. Ce qui va poser quelques problèmes, parce que justement, et M. Ribault l'a un tout petit peu dit, il y a une tendance à l'heure actuelle de fermer les institutions et on risque de se retrouver avec... nous, déjà juges des mineurs, avons un problème parce qu'on n'a plus assez d'institutions pour placer les mineurs, mais on risque de se retrouver avec un problème plus grand parce qu'on sait bien que la réaction, elle n'est pas immédiate. Si la criminalité, elle va augmenter beaucoup plus vite que les institutions ne vont se réouvrir et on risquerait de se trouver avec un tel problème. Ça, c'est aussi toutes des réflexions du reste qu'on a au niveau de la Confédération également, jusqu'au plus haut niveau, sur ce plan-là. Une partie de notre travail maintenant, c'est aussi d'analyser, et ça je ne vous dis pas, c'est des fois pas forcément une sinécure, les multiples échanges de SMS, pages Facebook, etc. Parce qu'effectivement, les petits appareils ont induit une autre relation entre les gens et un relationnel complètement virtuel entre les gens, mais où il y a des infractions pénales. Alors là aussi, et je tiens aussi à le souligner, il y a un travail de prévention très important qui est fait par la police neuchâteloise. Il y a un policier qui va dans les écoles, qui explique aux jeunes que, justement, il y a des infractions qui peuvent être commises dans ce cadre-là, ce dont ils ne sont souvent pas très conscients. Voilà, c'était plus une réflexion qu'une question sur une pratique journalière. Merci.
Autre question, monsieur.
Oui,
C'est enregistré.
Alors, j'ai en tant qu'économiste et manager, j'ai des affaires en Italie. Et Madame Bugnon a parlé du Brésil, on s'est exprimé sur la Suisse, on s'est exprimé sur le canton, sur la France, etc. Et je trouve que souvent, on occulte l'Italie. Et disons, j'ai notamment lu 000 de Roberto Saviano. Et puis, on connaît, disons... le profil un peu criminel de l'Italie, parfois on exagère. Alors, est-ce que quelqu'un parmi les intervenants, parmi l'assistance, connaît un peu les statistiques, le système de prévention en Italie ? Parce que pour moi, c'est un pays important, puisque j'y suis souvent, notamment à Milan, à Piacenza, à Venise, etc. Est-ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?
Alors, je ne peux pas vous éclairer votre lanterne sur le plan des statistiques, mais sur le plan de l'organisation, on a évidemment une justice spécialisée avec des tribunaux des mineurs qui fonctionne un peu sur le modèle protectionniste, je dirais, européen, qui a été inspiré beaucoup par le modèle français de l'époque, la fameuse ordonnance sur l'éducation surveillée, qui n'avait aucune... même dans le mot de la loi, il n'y avait aucun, aucune référence à la peine, au pénal. Donc ça, ça a été l'inspiration. Après, ces tribunaux pour mineurs ont eu, à un moment donné, des compétences civiles et des compétences pénales, y compris des compétences en matière d'adoption. Actuellement, ils n'ont que des compétences pénales, un peu à l'image, et ils ont resserré et réformé leur système à plusieurs reprises. La dernière tentative de réforme est une réforme qui était une réforme assez agressive, puisqu'elle, c'est un peu le débat du début de notre séance, de l'abaissement de l'âge de la majorité pénale à 16 ans, qui a été combattu très vivement. Je ne sais pas si la décision finale a été prise, parce que j'ai vu passer un certain nombre de documents, y compris de pétitions, et qui tendaient véritablement à considérer les enfants à partir de 16 ans comme des adultes et à diminuer un peu les compétences des juges des mineurs. Donc une attaque assez forte sur la justice juvénile des mineurs. Maintenant, par rapport aux statistiques, je ne peux absolument pas vous dire de quoi il en retourne. Un problème particulier de l'Italie est clairement le nombre de mineurs non accompagnés qui sont sur le territoire italien, étant donné que Lampedusa et la Sicile sont des ports dans lesquels arrivent de très nombreux mineurs. Une partie sont enregistrés et partent plus ou moins officiellement, mais une grande partie disparaissent et sont probablement dans les grandes villes et probablement des clandestins. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des délinquants, mais ça veut dire qu'ils sont certainement eux-mêmes victimes souvent de trafic et d'infractions, et peut-être qu'ils se prêtent aussi, étant embrigadés, à des activités criminelles. Donc ça, c'est un problème particulier qui justifiait la demande de les considérer, enfin de considérer les 16 ans comme des adultes, et en un mot, de les mettre dedans. C'est ça que ça veut dire. Mais je n'ai pas de statistiques à vous donner, mais je peux en trouver si vous me donnez. Mais je n'ai pas ça dans ma mémoire vive du jour.
Alors, il y a un point qui m'a assez surprise, c'était l'augmentation des jeunes filles délinquantes. Alors, j'ai des souvenirs de mes cours de criminaux. Par rapport donc là, aux adultes, aux femmes qui étaient représentées, et il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'était à peu près 15% de femmes délinquantes contre 85% d'hommes. Donc là, les jeunes filles seraient bien plus représentées proportionnellement que les femmes adultes. Donc il y avait aussi un seul domaine où elles étaient plus représentées que les hommes. Donc là, je me demandais, bon, c'est peut-être relativement récent comme étude, mais s'il y avait un domaine dans lequel ces jeunes filles étaient plus représentées, et du coup, vu qu'il y a eu une augmentation importante des jeunes filles délinquantes, s'il y avait un domaine aussi en particulier ou plusieurs concernés.
Alors, elles excellent dans les échanges par SMS, Facebook et autres. Je ne sais pas si... Bon, on a aussi le phénomène des jeunes gitanes venant de France voisine et qui cambriolent. La violence des jeunes filles, parfois, oui, des règlements de compte. Alors, ça commence sur Facebook, ça continue par un rendez-vous, parce que, comment elles disent, parce qu'on a mal parlé d'elle, elle avait mal parlé de moi, alors je suis allée discuter, et puis ça finit par une bagarre. Voilà. Par contre, chez nous, en tout cas, dans le canton de Vaud, on n'a pas de vol de voiture. Ça reste un apanage masculin. Je ne sais pas si tu as déjà vu un vol de voiture par une fille. Je ne crois pas.
Alors, je réponds parce que j'ai l'article de la Neue Zürcher Zeitung que je vous donne volontiers après et qui dit... Alors, c'est celui qui annonce 25% des filles. Et alors, je traduis, les condamnations des jeunes filles sont d'abord diebstahl des vols, escroquerie et Urkundenfälschung, c'est des falsifications de... faut dans les titres, oui, faut dans les titres, suivi de recel et utilisation de Datenverarbeitungsanlage, une falsche Anschuldigung. Je pense que c'est surtout des titres de transport et des choses comme ça dans les transports publics. Donc c'est
les entrées en boîte, le faux dans les certificats, c'est les entrées en boîte avec la carte d'identité d'une copine plus âgée.
Ouais. C'est pas la fabrication de fausses monnaies avec les ordinateurs. Non, je dis ça parce que c'est extraordinaire. C'est une des dernières évolutions que j'ai vues quand j'étais encore juge, c'est qu'on avait des jeunes relativement intelligents et bien formés qui utilisaient les ordinateurs et les photocopieuses des ordinateurs pour faire de la fausse monnaie, ce que j'avais jamais vu pendant de très nombreuses années. Donc là, apparemment, si on en croit cet article, c'est surtout des infractions contre le patrimoine. Hein. Ce n'est pas tellement de la violence.
Mais par ailleurs, alors ça n'explique pas du tout la hausse récente, mais les études, d'ailleurs, une de nos collègues du Centrement de recherche en criminologie, enfin même deux de nos collègues sont spécialistes de la question, Véronique Jacquet et Joël Vuy, en fait, l'inégalité de genre persiste dans le système pénal et ce qui est montré, c'est que les femmes, en tout cas chez les adultes, quand elles arrivent dans le système pénal, c'est généralement qu'elles ont, elles sont déjà passées par beaucoup de, voilà, d'institutions de contrôle plutôt du côté de l'État social. En général, quand elles arrivent dans le système pénal, c'est avec un gros délit, souvent assez grave, ce qui produit aussi des discours au sein du système pénal du type « les jeunes filles, c'est les pires ». Parce qu'en fait, en général, les femmes sont davantage d'abord traitées non comme des délinquantes, mais comme des déviantes, comme le dit la littérature sociologique, et prises en charge par d'autres acteurs du monde de la psychologie, de la psychiatrie ou du social. Et donc, il y a différents filtres qui les empêchent en fait, d'entrer dans le système pénal. Puis peut-être l'autre réponse par rapport... Vous avez mentionné le recel. Je me pose un petit peu la question si... En tout cas, dans des environnements sociaux où la délinquance est assez professionnalisée et lucrative, donc vraiment à des buts financiers comme le trafic de drogue organisée ou les braquages en bande, etc. Donc là, je reparle de mes terrains brésiliens. Les femmes occupent des positions spécifiques dans ces environnements-là, de type justement garder la marchandise ou cacher la drogue. Et en fait, même en Suisse, on a l'impression que les choses sont moins organisées, mais j'ai déjà été confrontée à des témoignages de ce type, du jeune garçon qui deal et au moment du contrôle policier, va demander à sa petite copine de planquer le sachet de drogue dans son soutien-gorge. Et donc, en fait, les femmes apparaissent aussi sous des catégories d'inculpation assez spécifiques à leur statut de femme dans les activités délinquantes ou criminelles.
Il y a peut-être un petit signe qui indique que ce qui est valable pour les jeunes filles, il est peut-être aussi pour les femmes adultes. En tout cas, l'ONE, qui est la prison pour femmes, mais concordataire, donc c'est pour l'ensemble de la Suisse romande, doit se réorganiser par manque de place. Je crois savoir que c'est surtout des cas vaudoises, alors je ne sais pas s'il y a plus, parce qu'on n'observe pas du tout ça à Neuchâtel, mais je sais que l'ONE doit se réorganiser. Il y a un pavillon qui n'était pas affecté à cet usage, qui va être affecté désormais pour les femmes en raison d'une certaine augmentation.
Pour aller dans le même sens de ce qu'a dit Mme Bugnon, c'est très intéressant si on va dans les institutions qui reçoivent des garçons et des filles. Et il y en a beaucoup qui reçoivent des garçons et des filles parce que dans nos pays, les institutions sont mixtes et la plupart des garçons sont placés par le juge pénal et la plupart des filles sont placées par les services de protection. Ils ne sont pas placés pour des infractions, mais parce que ce sont des filles à risque, à mauvais comportement ou à une sexualité particulière qui les met elles-mêmes à risque. Alors, peut-être que maintenant, on a un glissement que les filles commettent un petit peu plus de délits, mais c'est très clairement que les placements et même l'emprisonnement, sous certaines formes, des jeunes filles et des jeunes femmes a été fait surtout pour des raisons de comportement et de protection sociale plutôt que pour des raisons de délinquance. Ce qui perdure aujourd'hui encore chez nous.
Vous noterez quand même qu'elles sont toujours minoritaires, même chez les jeunes filles. Hein, donc, oui, il y a deux autres questions, une là, trois même. Alors.
Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de la médiation et j'aurais voulu savoir à quelle fréquence est-ce que vous y aviez recours.
Alors, je dirais que ça dépend beaucoup d'un canton à l'autre et des systèmes en vigueur, parce qu'il y a d'assez grandes différences. On a parlé tout à l'heure du canton de Fribourg. Le canton de Fribourg a un bureau de médiation pénale des mineurs intégré à l'administration cantonale. Et par conséquent, il y a beaucoup... Et puis, ils sont peu de juges des mineurs. Et il y a énormément d'affaires qui partent en médiation. Je crois que c'est 10%. Nous, dans le canton de Vaud, c'est beaucoup moins fréquent, mais il y a entre la possibilité de juger et la possibilité de la médiation, il y a encore la possibilité de la conciliation dans les délits poursuivis sur plainte. Et ça, c'est une chose que nous pratiquons nous-mêmes dans les situations où ça nous paraît être adéquat. Donc on a un petit peu moins de médiation. J'ai de la peine à vous dire en chiffres à quoi ça correspond. Mais la médiation reste vraiment une bonne solution dans certaines situations particulières. Il faut qu'il y ait aussi une indication, je dirais. Et puis, alors le cas des autres cantons, je ne sais pas quel est le système à Neuchâtel. Il n'y a pas de bureau de la médiation. Non. Donc c'est des médiateurs privés. Chez nous, ils sont agréés par le tribunal cantonal. Ils doivent être agréés par le tribunal cantonal pour fonctionner comme médiateurs en médiation pénale des mineurs. Mais ce sont des médiateurs privés.
À l'époque, j'ai évoqué cet essai. Ça remonte à 92, sauf erreur. C'était avec l'Office des mineurs, dont certains assistants sociaux avaient suivi une formation en médiation pénale. Et on avait fait cet essai. C'était un essai, en quelque sorte. On était dans les premiers, même au plan européen. Et c'était une manière de tenter de trouver d'autres réponses que la répression, que même les mesures. Simplement, c'est ce terme de médiation distingue effectivement de la conciliation. Conciliation, on essaie de mettre les gens d'accord sur un point. La médiation, on essaie de vider le litige avec dans toute sa profondeur. Donc une grande différence. Et puis effectivement, Neuchâtel s'est pas beaucoup développé depuis lors, malgré les essais entamés très très tôt, parce qu'il faut toujours des gros moyens pour développer les choses, puis que ces temps-là, on n'a pas tellement de moyens.
Alors en Valais, pour vous donner la situation, c'est la même chose que dans le canton de Vaud. Donc c'est médiation privée, c'est des médiateurs ou des bureaux de médiateurs, mais qui sont privés, évidemment qui coûtent, avec peu de médiation. Et par rapport au modèle fribourgeois qui est unique en Suisse, hein, un bureau officiel qui est lié plus ou moins au tribunal, pas directement, mais fait partie de l'administration, ils ont à peu près 200 médiations par année. Je pense qu'en Valais, il y en a 20, c'est le grand maximum. Donc je ne suis pas forcément un grand fanatique du modèle fribourgeois, qui est un modèle où, à mon avis, le médiateur n'est pas tellement à de l'indépendance et formé, mais c'est un modèle qui est un modèle étatique qui présente aussi un certain nombre, à mon avis, de difficultés du point de vue de l'indépendance du médiateur d'accepter ou de refuser de travailler. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a de très nombreuses affaires qui vont en médiation et qui se résolvent en médiation, qui évitent évidemment toute la stigmatisation pénale.
Voilà, alors bonsoir. Il y a quelque chose qui nous a frappé avec ma collègue, c'est que vous avez justement mentionné que beaucoup justement d'enfants, lorsqu'ils arrivent justement dans un milieu choisi ou autre, font leur nid, d'accord, refont leur nid justement dans ces institutions. Donc nous, on est justement d'un point de vue plutôt sociologique et on se questionne voilà, à savoir pourquoi justement ils passent d'un point A à un point B et justement ils refont leur cercle, en fait leur cercle de confiance. Donc notre question c'est tout simplement est-ce que le système répressif est-il vraiment adapté dans le sens que voilà, on est bien d'accord qu'il faut, voilà, il faut réprimer voilà, si on a fait quelque chose de mal. On est bien d'accord. Mais le problème, c'est que si on leur dit et on ne leur donne pas les outils nécessaires pour avancer, eh ben, ils vont refaire, voilà, ils vont tout simplement reproduire les schémas qu'ils ont déjà faits. Et donc, nous, justement, dans nos études, on a beaucoup parlé de la valorisation qu'il faut donner aux enfants. Et voilà, notre question, c'est plutôt de les réprimander pour voilà, les mettre vraiment, les empêcher dans des institutions fermées, pourquoi pas leur donner plutôt à des éducateurs spécialisés ou presque, voilà, vraiment orientés pour leur donner les outils de valorisation pour les aider à dire, ben voilà, ce que vous avez fait, c'est vraiment, on est bien d'accord, c'est au niveau sociétal, ce n'est pas bien, mais on vous donne d'autres moyens pour vous sentir valorisé que de commettre un crime.
Mais c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs dit bien l'éducation et la protection du mineur sont prioritaires dans l'application de cette loi. Donc les premières mesures que nous prenons, c'est d'ordonner des traitements ambulatoires, c'est d'ordonner une assistance personnelle, confier à un éducateur, confier à un assistant social du service de protection de la jeunesse qui suit le mineur. La privation de liberté au sens d'une peine reste vraiment l'ultima ratio. On en a peu. Quand même. Et puis, ce qu'il y a entre deux, c'est toutes les mesures de placement, mais qui sont aussi des mesures qui ne sont prises qu'en dernier recours, parce qu'il n'est pas possible de maintenir le jeune dans sa famille. Donc voilà, donc tout ce que vous dites de prise en charge éducative, et puis après, il y a encore le travail avec les familles, parce que évidemment qu'on ne peut pas non plus cibler que le mineur. Si le mineur en est où il en est, c'est bien parce qu'il y a souvent un dysfonctionnement familial aussi. Et puis, en tout cas, dans les foyers, bon, déjà, les éducateurs, je dis que au tribunal des mineurs, nous avons des éducateurs rattachés au tribunal des mineurs, donc avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Et puis, quand les mineurs sont suivis par le service de protection de la jeunesse, ce sont les assistants sociaux du service de protection de la jeunesse qui continuent à les suivre. Mais nous travaillons toujours en collaboration avec ces personnes-là. Donc, la première chose qui est faite, c'est toujours de tenter une approche déjà ambulatoire pour maintenir le mineur dans sa famille avec un suivi par un éducateur, par un assistant social. Et c'est seulement en cas d'échec de ce type de mesure-là qu'un placement est ordonné. Il y a quand même des situations où les parents ne veulent plus entendre parler de leur gamin, pour être clair. Ils disent « Non, mais vous ne me le redonnez pas, c'est exclu. La porte sera fermée ce soir, donc il faut faire quelque chose. Hein. » Puis des fois, vite. Parce que, voilà, mais évidemment que la grande majorité de nos mesures, c'est des mesures ambulatoires. Les placements, c'est peu. Je ne sais pas, j'en ai 3-4 en cours actuellement, donc pas plus. Et puis, il y a tout un travail en réseau qui se fait aussi avec les organismes qui peuvent prendre en charge les mineurs. Je pense à des organisations spécialisées comme Espace en matière de délits à caractère sexuel, comme VIFA chez nous pour les auteurs de violences. Donc souvent, c'est une prise en charge multiple, mais au domicile du jeune, enfin, avec un maintien du jeune à son domicile. C'est seulement dans les situations où ce n'est pas possible que le placement est tenté. Quant à la peine privative de liberté, ben ça reste aussi l'ultime recours. Et il y en a relativement peu, mais de temps en temps, c'est la chose nécessaire. Et puis, il faut rappeler aussi que la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs prescrit qu'une peine privative de liberté doit s'exécuter en donnant aux mineurs la possibilité de faire de la réadaptation scolaire, un début de formation, de l'orientation professionnelle, etc. À la prison des Léchères, il y a une grande partie d'éducateurs et pas d'agents de détention. Il y a quelques agents de détention, mais il y a principalement des éducateurs, des enseignants, un service médical, etc. Donc, même à l'intérieur d'un établissement de détention, la prise en charge reste éducative, comme le prescrit la loi. Cela dit, voilà, c'est perfectible aussi, hein, c'est certain. Et puis, il faut de temps en temps tâtonner pour trouver la bonne solution, parce que ben, l'adolescence, on l'a dit, l'adolescence, c'est pas un adulte en moins, mais c'est un humain dans une phase très particulière, avec d'immenses bouleversements physiques, psychiques, sociaux. Et puis, c'est pas toujours la première solution qui marche. Voilà, mais on peut changer.
Je voulais aussi rebondir sur cette histoire cette question de faire son nid en me faisant un peu le relais des propos tenus par les jeunes que nous interviewons actuellement dans le cadre de notre enquête. C'est vrai qu'il y a une forme de continuité entre l'extérieur et l'intérieur pour un certain nombre d'entre eux, et c'est vrai que cette continuité peut à la fois parfois atténuer le choc en fait de la détention ou du placement. Après, c'est vrai que dans certains cas, on se demande si le fait d'atténuer le choc n'est pas favorable à sa réinsertion future. Pour certains, on a l'impression que, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer dans certains témoignages, la rupture de l'enfermement crée davantage de discontinuité dans la trajectoire du jeune, surtout pour des jeunes qui ont une carrière institutionnelle très longue, souvent bien avant en fait l'entrée dans le système pénal, des jeunes qui sont en fait placés de foyer en foyer. Donc je ne suis pas du tout en train de blâmer les professionnels qui prennent ces décisions, mais disons que la conséquence, parce que voilà, les professionnels se trouvent aussi face à des dilemmes et face à des injonctions contradictoires, mais en tout cas la conséquence concrète dans la vie du jeune, c'est une discontinuité, une rupture répétée tout au long de la trajectoire de l'enfance et de l'adolescence. Et finalement, le placement ou la détention après au pénal ne représente qu'une rupture de plus à laquelle le jeune s'est bien accoutumé. Et puis aussi, pour un petit peu, peut-être un peu de manière un peu provocatrice, diminuer l'impact du coup d'arrêt qui peut être recherché par les juges des mineurs. J'ai un jeune qui me disait récemment, pour moi, ça a été très facile d'arriver en détention parce que j'avais déjà passé 2 jours en détention préventive. Et du coup, je savais ce que c'était. En fait, après 24 heures, 48 heures, on a appris à gérer la sensation de l'enfermement. Et du coup, cette fois-ci, ça ne m'a plus fait grand-chose d'être enfermée à nouveau. Donc, on voit quand même que l'effet du coup d'arrêt, après, je parle d'un cas particulier, il peut être quand même très variable en fonction des jeunes et de leur expérience passée et de leur connaissance aussi du système pénal. Pour certains, un autre me disait heureusement j'ai pas été incarcéré. Et moi je lui dis, est-ce que ça te faisait peur l'incarcération? Il m'a dit, ça ne faisait pas peur du tout, le plus gros problème c'est que ça allait créer un trou dans le réseau de trafic de drogue dans lequel et que l'argent n'allait plus circuler aussi bien qu'avant. Et donc, après, on peut dire, est-ce qu'il était en train de se vanter face à l'enquêtrice?
Oui, c'est ça. C'est qu'il y a toutes les attitudes possibles. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y en a à qui ça fait ni chaud ni froid, c'est évident. Il y en a aussi à qui ça fait quelque chose et qui le disent, et il y en a à qui ça fait quelque chose mais qui ne le disent pas. Et puis, il y en a aussi qui vont rouler les mécaniques auprès de leurs copains en disant « Ouais, je suis allé aux légères ». Et puis, du coup, ça leur donne une aura qui n'est pas du tout celle que nous avons souhaitée. Mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis... Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut beaucoup retenir le discours. C'est pas du premier coup, quand on a un adolescent un peu révolté en face de soi, que nos bonnes paroles vont marcher du premier coup. Mais enfin, j'ai tendance à dire que les enfants qui vont très bien, on doit aussi pas mal leur répéter les choses quand même. Pour ceux qui ont des enfants parmi vous, c'est vrai que c'est rare que quand on leur dise tes affaires de sport, tu les poses pas devant la porte d'entrée, mais tu vas les mettre dans le panier à linge sale. C'est assez rare que ça marche du premier coup. Alors pourquoi des jeunes qui vont pas bien, qui n'ont pas toujours eu qui n'ont pas eu les points de repère, qui n'ont pas eu ni les limites, ni les stimulations positives, pourquoi est-ce que, parce que Madame Raymond leur dit, mais ça, c'est, il ne faut pas le faire, pourquoi, on essaye de discuter pour savoir s'ils comprennent pourquoi ils n'auraient pas dû faire ça, et puis qu'on leur explique les mesures qu'on va prendre, mais pourquoi est-ce que ça marcherait du premier coup? Voilà.
Alors, je pense que votre question a une assez bonne transition à la mienne, qui était, en fait, je m'interrogeais à savoir si vous avez une idée un petit peu de la proportion de ces jeunes qui sont pris dans les filets de la justice, quelle proportion d'entre eux est acheminée ensuite vers des systèmes de santé mentale?
C'est difficile à dire. Je ne sais pas ce que vous entendez par système de santé mentale.
Ça peut être plus spécifiquement vraiment des soins psy. Mm-hmm. Je pose la question parce que notamment à l'adolescence, il y a certains troubles qui se développent à cette période-là, plus spécifiquement.
Alors, j'ai aucune idée des chiffres. On en a qui sont parfois déjà suivis pour X raisons. On a souvent des enfants hyperactifs, par exemple. Il y en a souvent qui sont suivis pour ça. Après, il y a des prises en charge que les parents ont déjà initiées pour la consommation de cannabis, par exemple. Et il y a d'autres mineurs dans des situations plus lourdes sur le plan psychique. Nous, les traitements ambulatoires que nous ordonnons, ils sont relativement peu nombreux. Pour un certain nombre de raisons, c'est qu'il faut déjà un peu l'accord du mineur pour qu'un traitement ambulatoire puisse porter ses fruits. Parce qu'envoyer quelqu'un être traité qui est complètement récalcitrant, ça ne sert pas à grand-chose.
c'est vraiment inutile. Peut-être qu'il ira, puis il s'assiera en face du thérapeute, il attendra que ça se passe, et puis voilà. C'est parfois productif quand on sent que le mineur en ressent le besoin, mais qu'il a juste besoin du coup de pouce pour ne pas admettre qu'il y est allé de lui-même. Donc parfois, de pouvoir dire « ouais, c'est la juge qui m'a envoyé », ça marche. Alors voilà, mais la proportion, je ne sais pas. Mais les directeurs d'institutions disent que de plus en plus, ils ont des jeunes qui ont des difficultés d'ordre psychologique et psychiatrique. Oui, c'est ce qu'on entend dans diverses institutions. Je pense à Saint-Raphaël en Valais, je pense à Valmont dans le canton de Vaud, qui disent qu'il y a de nombreux problèmes psychiques qui se posent. Puis c'est pas forcément nous qui envoyons en thérapie, mais il y a tout ce qui peut être initié par les services de protection des mineurs, par les parents eux-mêmes, enfin voilà. Mais alors j'ai en tout cas pas de chiffres, quoi.
Il se trouve que maintenant j'ai changé de côté. Avant juge des mineurs, aujourd'hui j'ai la police et les prisons dans mon département, par exemple. Et je peux vous dire que dans les prisons, l'attitude des gens, le comportement des gens, leur état est pas très bon. Ça se dégrade incroyablement. Il y a ces personnes incroyables qui mangent des trucs, il faut aller les faire opérer, mais jusqu'à 30 fois, hein, ouvrir le ventre pour leur tirer les choses. Il y a vraiment un état psychique qui va vraiment pas vers le mieux. Pour les mineurs, le juge des mineurs, il lui échappe un immense nombre de jeunes problématiques parce qu'ils sont plutôt dans l'automutilation ou pas dans la délinquance, simplement. Hein. Les juges des mineurs, ils n'ont que ceux qui, outre leurs problèmes psychiques, commettent une infraction. Hein. Sinon, on les voit pas dans le réseau, dans le radar, en fait.
Je veux juste ajouter que dans la planification qui avait été faite en 2005 pour les institutions, pour les jeunes, était prévue une institution pour les jeunes ayant commis des délits et étant en plus psychiquement atteints. Cette institution n'a pour le moment jamais vu le jour et aucun canton ne s'est annoncé pour la créer parce qu'on est toujours devant un dilemme.
Si, si, si.
C'est le curabilis mineur qu'on voulait faire et qui était au programme, mais qui s'est toujours heurté, enfin, à moins que la situation se soit décantée, c'est que ceux qui soignent sont d'accord de soigner, mais ne veulent pas garder. Puis ceux qui gardent sont d'accord de garder, mais ne veulent pas faire autre chose. Donc on a toujours cette opposition entre le soin et la sécurité ou la sûreté, qui a fait que pour le moment, curabilis a mis 30 ans, je pense, avant le jour. Donc l'institution curabilis mineur
va voir le jour en 2019 dans le canton de Vaud, sur le site de Seury.
Voilà une bonne nouvelle.
Voilà, le projet est sous toi. Alors après, il faudra voir dans la pratique, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Entre l'éducation, l'enfermement, la thérapie et les différentes approches de ces milieux-là. Mais en tout cas, cet établissement de 10 places est prévu. Il sera principalement vaudois, mais ouvert aux ressortissants des autres cantons quand il y aura de la place.
Voilà, mesdames et messieurs, je me vois dans l'obligation d'interrompre pour la simple et bonne raison que certains intervenants qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir ont encore des engagements pour plus tard dans la soirée, donc il faut impérativement qu'ils s'en aillent. Donc je suis un peu obligé d'arrêter la discussion là. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci à vous, public. Et je tiens juste à vous mentionner que le prochain café scientifique sera le mercredi 21 juin et qu'il traitera des religions et de leur reconnaissance, enfin de la reconnaissance d'autres religions que les religions majoritaires, enfin majoritaires entre guillemets, mais celles qu'on considère comme étant majoritaires chez nous, puisque dans le canton de Neuchâtel, on est en train de songer à, je sais pas comment dire, légaliser 26 religions différentes, ce qui est quand même une grosse masse, et la discussion tournera là autour. Merci encore et bonne soirée à tous.